Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Eh bien, la Bibliothèque nationale est à la fois une bibliothèque de conservation et une bibliothèque de recherche. De conservation, elle est, on peut le dire, la mémoire du monde. Et surtout la mémoire de la France.
Et cette Bibliothèque nationale, c'est aussi la mémoire du sport, à travers les archives de presse que collectionne la BNF depuis plus de 3 siècles. Sachez que l'histoire du sport s'est d'abord écrite dans les journaux, une source extraordinaire et foisonnante qui nous offre un regard très précis sur le phénomène sportif en tant que pratique et spectacle. Par ailleurs, dans les arcanes de cette BNF se nichent aussi des destins oubliés de championnes et champions du XXe siècle, une exploration jubilatoire. Au programme ce soir, donc, 2 invités au micro d'Inter pour nous guider dans les méandres sportifs de la Bibliothèque nationale de France. Tout d'abord, il est responsable éditorial d'un site d'archives de presse sous l'égide de la BNF, Retro News. Étienne Manchette, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. À vos côtés, il est chef de la rubrique sport du journal Libération et auteur de Rétro Sport, chronique sportive passionnante à base d'archives de presse, justement. Gilles Ders, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu. Et puis, juste avant 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minonzio. Ce soir, les goûts musicaux de LeBron James, l'icône planétaire du basket américain. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Ce soir, la Bibliothèque nationale, boîte à trésors de récits sportifs.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, chaque semaine, dorénavant, nous débutons, vous le savez, cette émission par la minute musculaire de Robert Reynaud. Et je tiens à préciser ce soir, face à la montagne de courriers que nous avons reçus depuis la rentrée, pour nous demander le vrai nom de ce nouvel humoriste, eh bien qu'il s'agit bien d'un véritable professeur de gymnastique des années 50 qui sévissait sur les ondes de l'ORTF. Ce n'est pas un canular. Ce soir, donc, le sémillant professeur Robert Reynaud vous propose de travailler une série abdominale pour assouplir votre colonne vertébrale.
Sur le sol, complètement étendu, maintenant voici un bon mouvement d'assouplissement pour la colonne vertébrale. Les deux bras tendus en arrière dans le prolongement du buste. Il s'agit d'aller toucher en arrière les mains avec les pieds sur le sol et ensuite en avant les pieds avec les mains. Donc l'inverse, n'est-ce pas ? Alors en arrière, vous allez toucher les mains avec les pieds et pour cela, vous lancez les jambes jusqu'à la verticale et au-delà. Vous les abaissez donc en arrière, c'est cela, bien en appui sur la nuque, n'est-ce pas ? Vous allez bien toucher sur le sol les mains avec les pieds, sans plier les jambes, sans les désunir, et vous les laissez retomber en avant. Alors c'est l'inverse maintenant, c'est le dos qui se soulève, le buste qui se porte en avant, le dos bien arrondi, n'est-ce pas ? Et les mains vont toucher les pieds, qui d'ailleurs se trouvent en extension de préférence, et vous repartez. Alors en arrière, les pieds sur les mains, et en avant, hop là, les mains sur les pieds. En arrière encore, les pieds sur les mains. Et en avant, les mains sur les pieds. La série abdominale est terminée, vous vous relevez.
Reprenez votre souffle. Après les rudes exercices du professeur Robert Reynaud, direction la BNF, voici l'histoire du dimanche soir. Dans les archives des 3 grands quotidiens français, Le Monde, Le Figaro, Libération, aucune trace d'une quelconque nécrologie de cette grande championne de tennis morte à Orléans en avril 1983, à l'âge de 90 ans. Personne à l'époque n'a pris soin de mentionner le décès de Marguerite Brocudis. Pourtant, il eût été normal de raconter sa vie dans le journal. Et comme dirait l'historienne Michèle Perrault, voilà une grande oubliée de l'histoire. Marguerite Brocudis, joueuse de tennis, toute première championne olympique française de l'histoire. Première médaille d'or du sport féminin français en 1912 aux JO de Stockholm. La presse de l'époque, elle, a relaté les exploits de Marguerite Brocudis et heureusement, dans les arcanes de la BNF, on trouve trace de cette championne. La BNF, boîte à mémoire du sport, boîte à trésor.
Ce qui caractérise avant tout cette Bibliothèque nationale, c'est sa triple vocation de bibliothèque de conservation, de travail et de recherche. Et c'est pourquoi elle n'est ouverte qu'à une certaine catégorie de consultants ou de chercheurs qui peuvent exciper de leur qualité professionnelle ou du sérieux de leurs travaux pour avoir accès à ces richesses, des richesses accumulées depuis Charles V, depuis 1373. Elle constitue d'ailleurs un concret et émouvant témoignage, héritage de la pensée française et universelle, et ce bien avant l'invention de l'imprimerie.
Nous étions le 9 mai, 1970, c'était un charme, la radio à l'époque, on nous présentait la BNF de la sorte. Étienne Manchette, rebonsoir, vous travaillez, vous, dans cette grande institution française, la BNF, vous êtes le responsable éditorial de Retro News, qui est un site web qui existe depuis 2016, je crois.
Tout à fait.
Placé sous l'égide donc de la BNF. Alors pour commencer, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous résumer, nous raconter la raison d'être de Retro News ?
Bah, Retro News, en fait, c'est il y a une grande collection qui est la collection de presse dont on parle ce soir, qui était une collection qui a été ignorée en fait pendant pas mal de temps, mais qui a un volume gigantesque. Voilà, nous on a des archives depuis 1631 jusqu'au
Théophraste Renaudot.
Exactement.
Premier journal français,
adoubé par la royauté.
Hein, voilà.
C'est avant
la Gazette.
Il y a d'autres types de presse avant.
Voilà.
Mais voilà, au bout d'un moment, la royauté décide.
Donc 1631.
1631. Voilà. Donc on a ça. Sur Retro News, on a 3 siècles et demi. L'idée, il était de pouvoir, sur cette collection, qui a un problème de conservation qui est énorme, c'est comment créer un endroit où on peut parler, rechercher que dans ce type de collection, parce qu'à la bibliothèque, il y a des cartes, il y a des médailles, il y a des
livres,
des cartes, etc. Voilà, qu'on peut consulter sur Gallica, mais Retro News est dédié à vraiment cette typologie de fond, qui est un fond qui parle de chaque jour de tout ce qui se passe dans le monde. Donc en fait, il y a énormément d'histoires, énormément de bruit, énormément de mots. Donc c'est un peu ça le sujet aussi de Retro News, c'est un outil de recherche, mais aussi des histoires qu'on raconte au jour au jour.
Pour donner une ampleur des choses, je crois que c'est 44 kilomètres de rayonnage, la presse, la BNF.
Ouais, c'est tout à fait ça.
44 kilomètres, faut s'imaginer quand même ce que c'est.
Au-delà du volume, qui est un vrai problème aujourd'hui de conservation.
Oui, et même, de dégradation aussi.
Voilà, de dégradation. Il y a certains papiers, les papiers sous la Révolution se conservent très bien, mais les papiers du 19e, les papiers de la Première Guerre mondiale, vraiment dépérissent énormément.
Donc il faut numériser, évidemment.
Il faut numériser, donc c'est
protéger, préserver.
C'est le chantier que mène la bibliothèque depuis une dizaine d'années, mais au-delà de ça, il faut aussi créer comment restituer autant de mots qui sont chaque jour. Il y a 50, 40, 70 canards qui couvrent le monde, qui parlent de tout et de sport. Et voilà, comment on peut aussi manier et ramener ça aussi aux gens pour que tout à chacun puisse un peu accéder à ça, à ces petites histoires que justement vous sortiez de cette tennisman trop publié. Ravi de vous citer, Michel Perrault.
Ben oui, évidemment. Alors passons au sport, Gilles Ders. Je rappelle que vous dirigez le service des sports du quotidien Libération. Oui, ça existe à Libération, il y a un service des sports, c'est important de le signaler. Et donc vous avez tous les samedis une chronique jubilatoire qui s'appelle Rétrosport, qui fait écho à Retro News. C'est un partenariat d'ailleurs avec la BNF et Libération. Donc tous les samedis, vous racontez une histoire qui vient de ces sources-là, de la presse ancienne, depuis quasiment un siècle et demi. C'était quoi l'idée au départ, Gilles Ders, de cette chronique?
Eh bien, l'idée au départ est née d'une rencontre donc avec les gens de Retro News. C'était en 2018, au moment de la Coupe du Monde de foot. Et on s'est dit que ce serait amusant de raconter la première Coupe du Monde à travers ce qu'on avait dit la presse française, parce que c'était une épopée. Elle se déroulait en Uruguay. Il a fallu prendre un bateau. Le voyage a duré des jours et des jours. Donc, on a chroniqué cette Coupe du Monde pendant un mois et demi. Et on s'est dit que la matière première que fournissait la BNF était sans doute sans fin et qu'il y avait certainement de très belles histoires de sport à raconter. Et donc, on s'est lancé là sur un rythme hebdomadaire et on est maintenant à près d'une centaine d'épisodes qui, avec des histoires tragiques, drôles...
Parfois oubliées. Il y a de grands champions et de grandes championnes qu'on voit ressurgir dans notre chronique. C'est assez impressionnant.
Et qui disent, au-delà de leur histoire, le statut du sport et du sportif dans les années... entre les années 1900 et 1950, que c'est généralement cette période sur laquelle on travaille. Et les débats qui ont traversé le sport des années plus tard,
bien sûr,
comme le professionnalisme, le dopage et le rapport du sportif à ceux qui racontent ses exploits.
Alors justement, Étienne Manchette, ces sources sont volumineuses, très importantes. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, du côté sportif de ces archives-là? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé dans le traitement du sport des années 10, 20, 30, 40, à travers la presse qui est conservée à la BNF?
Le fait divers trône complètement à la fin du 19e, c'est du sang à la une, hein, et puis après, en fait, ça pivote gentiment et il y a la naissance des rubriques sportives. Et tous les grands quotidiens, tous les journaux, la presse locale qui est le grand vecteur d'information 19e, début 20e, voilà, là, il y a du sport partout, tout le temps, et le type de narration, en fait, va changer. les journaux se transforment, l'écriture se transforme. Il y a une spécialisation qui est absolument énorme du journalisme sportif. Hein, voilà, les grands reporters sportifs qui s'y mettent. Mais ça crée une autre cadence, le feuilletonnage. Voilà, les journaux, c'est le média de masse hein, de l'époque, hein, y a pas la radio. Et cette espèce de passage sur le feuilletonnage, comment se déroule un match, la photo qui va arriver, qui raconte des histoires, qui va devenir au fur et à mesure plus sensible, plus humaniste, c'est-à-dire que les boxeurs, voilà, on va les représenter voilà, dans des situations plutôt familiales, alors qu'ils représentent une force brute. Il y a toute cette narration qui vient, qui parle à tout le monde, quoi, et que tout le monde saisit.
Gilles Ders, vous êtes, vous, journaliste en 2020, journaliste spécialisé dans le sport et dans sa culture et dans son histoire. Qu'est-ce que vous diriez, vous, du traitement du sport dans les années 10, 20, 30 dans la presse? Est-ce qu'on peut dire rupture, continuité? Quand on est historien, on cherche les ruptures et les continuités. Qu'est-ce qui se ressemble? Qu'est-ce qui ne se ressemble plus? C'est quoi les grandes différences entre hier et aujourd'hui?
Je dirais que c'est une différence de statut du sportif. J'ai l'impression que dans ces années-là, le sport appartient aux sportifs et à ceux qui le font. Alors qu'aujourd'hui, le sport appartient plus vraiment aux sportifs, appartient à des chaînes de télévision, à des détenteurs de droits.
Des sponsors,
etc. Alors que l'athlète est vraiment au cœur de ce récit. Il y a des pages entières, par exemple, sur Ladoumègue quand il...
Grand athlète,
convaincu de professionnalisme, alors que tout le monde l'était plus ou moins à l'époque, et qui court devant 400 000 personnes sur les Champs-Élysées qui sont là uniquement pour le voir courir. Il n'y a pas de compétition, il n'y a aucun enjeu sportif, uniquement un enjeu populaire. Ladoumègue incarne son sport. Et je crois pas mal de sportifs et sportives à l'époque représentaient leur sport comme peu aujourd'hui.
Étienne Manchette, vous l'avez déjà évoqué avec un mot, vous avez dit la photo. Ça, c'est très important parce que ce qu'on ignore, c'est que l'art photographique, la technique photographique a évolué en même temps que cette presse sportive. Il a fallu qu'on trouve des astuces pour mettre en scène le champion ou l'exploit sportif. Donc, on a photographié autrement, on a trouvé des idées pour photographier autrement. Ça a été très important. C'est une histoire parallèle, la photographie et le sport au début du XXe siècle. C'est très important. Et ce qui est assez charmant à la fois et passionnant dans ces archives de la BNF, c'est de voir surgir ce monde en images. Un monde englouti d'ailleurs aujourd'hui. C'est un monde qui a disparu. On revoit ressurgir des regards, des visages incroyables, des belles gueules, des sales gueules. C'est très étrange, toute cette iconographie qui est présente dans la presse de l'époque.
Alors, il y a d'abord le dessin. Hein. Le dessin est extrêmement présent à la toute fin du 19e. Il y a vraiment tout ça.
Oui, d'abord, c'est du dessin, c'est
voilà.
Vrai.
Voilà. Donc, en fait, il y a toute une mutation au fur et à mesure vers la photographie. Il y a une espèce de promesse du réel hein, qui est faite par les journaux sur comment on peut mieux témoigner. Il y a aussi ce grand paradigme de on va parler à plus de monde via l'image. Et les grands sports qui vont, parce qu'il y a le vélo, etc., qui sont des grands moments, la course à pied, mais en fait, le sport automobile, l'aviation, c'est les sports qui vont occuper les unes et qui sont considérés vraiment comme des exploits sportifs. Blériot, quand il passe, c'est avant tout une espèce d'aventurier qui est à la frontière. Voilà, et ça, c'est la couverture. On est à la jonction des mots. On a son récit dans Le Matin, voilà, où il va parler qu'il a hyper peur de partir, qu'il a pas du tout envie d'y aller. Et il y a les photos qui vont trôner sur les titres des journaux, l'avion de Blériot venant sur les titres. Donc il y a cette mutation qui est importante. Le dessin de presse, l'iconographie, etc., va venir au fur et à mesure. Et là, j'ai un dessin sur le premier Tour de France, parce que tu disais que le sportif est plus présent. Le Tour de France, qui est-ce qui le finance? C'est les canards.
Donc,
il y a le vélo qui organise d'abord ça. Après, il y a l'auto-vélo qui va devoir changer de nom, qui devient l'auto qui crée le Tour de France. En fait, c'est ce feuilletonnage, il vient aussi parce qu'on est sur des événements très concis qui peuvent être couverts. Il y a avant tout ce modèle de grande presse, de grande diffusion qui vaut le fait divers au 19e siècle, voilà, qui occupe et qui fait de l'audience, quoi. C'est vraiment aussi ça le sujet.
Gilles Ders, on peut remonter encore plus loin dans le temps, puisque une de vos chroniques dans l'IB il y a quelques mois s'intitulait « Quand la Révolution française ravivait la flamme olympique ». Incroyable, j'ignorais complètement cette histoire.
C'est
de quoi il s'agit.
Que j'ai découverte également dans les années 1790, a émergé l'idée de faire revivre 93. Les Jeux de l'Antiquité. La première édition de ces Jeux, ces premiers Jeux modernes finalement, se déroule en 1796
oui,
sur le champ
de Mars.
Ils ont eu lieu.
Ils sont 1796.
Ils sont groupés sur une journée. Ils proposent de la course à pied, de la course de cheval et de la course de char. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que à l'époque, Danton voit quasiment dans ces Jeux un outil du soft power pour la France. Et il espère que tous les étrangers viendront et seront ébobis de la grandeur de la France capable d'organiser un tel spectacle.
96, c'est la fin de la Révolution, donc il y a aussi tout cet aspect-là qui est assez important dans cette quête de sport.
Mais Étienne Manchette, ce qui est intéressant aussi, c'est replacer toujours ces articles dans leur contexte de l'époque. Et notamment, il y a un journal dont j'ignorais le nom, qui est Les Annales Patriotiques et Littéraires de la France, qui est un journal pré-révolutionnaire de l'époque, conservé à la BNF, où en effet, on a un discours de Danton qui y voit en effet un moyen pour lui de diffuser l'idéal révolutionnaire. Donc il y a effectivement la militarisation de la période révolutionnaire, mais on comprend...
De cette fin de période révolutionnaire,
bien sûr. Mais on comprend aussi que ça a déjà une dimension politique, les Jeux Olympiques pour Danton.
Complètement. Alors ça, ça s'inscrit dans les grandes fêtes révolutionnaires, et clairement, il y a ce mouvement-là. Il y a aussi le fait de parler à une certaine partie de la population, et ça c'est flagrant quand on relit le texte, c'est-à-dire que qui est-ce qui va y aller? Et d'ailleurs les critiques de ces chars qui ressemblent à des cajots...
Des brouettes.
Voilà, on voit bien qu'il y a deux points de vue, et qu'on est avant tout dans une fête fédéralisante, qui cherche ça, et c'est là-dessus que c'est sûr que c'est dément de trouver ça dans les archives de presse de la Révolution, pour voir comment le sport, mais l'idée d'effort, l'idée de rendez-vous, peut déjà être là, c'est dans des moments aussi impromptus, quoi.
Alors, autre vertu de cette BNF, c'est de comparer des points de vue. Et là, on peut remonter dans le temps très loin, mais on peut aussi comparer au début du XXe siècle, au tout début, même 1926, il y a une autre chronique, Gilders, qui s'intitule France-Russie en foot, des matchs très politiques. Et là, ce qui est passionnant dans cette rubrique, c'est de prendre les différents titres de presse et de voir comment ces matchs de football, on va y revenir en quelques mots, qu'est-ce que c'est que ce match de football, mais comment ça cristallise la vie politique française. Et donc, chaque journal, de son point de vue, traite ce match France-Russie. Quel est ce match France-Russie déjà?
Alors, ce sont des faux matchs France-Russie, parce que ce sont pas des vraies équipes nationales, mais c'est la survivance sur le terrain de la scission du congrès de Tours entre communistes et socialistes. Il se trouve que les communistes font venir, notamment grâce à Jacques Doriot, dont on sait la fin de l'histoire,
assez peu glorieuse. Un des grands collabos français sous Vichy.
Donc, qui avait été représentant du Parti communiste à Moscou et qui, en 1926, fait venir une équipe d'ouvriers soviétiques qui l'oppose à une équipe montée par la Fédération sportive du travail d'obédience communiste, et ils organisent deux matchs. L'humanité en fait des tonnes, présente les valeureux ouvriers soviétiques comme capables de battre n'importe quelle équipe. De fait, ils battent les ouvriers français 5-0 et 4-0. Et il y a des scènes assez rocambolesques où on raconte que soudain ont émergé les maillots rouges des joueurs soviétiques portés par la foule. Normalement, un troisième match doit se jouer, sauf qu'il est prévu d'être organisé par la Fédération sportive du travail d'obédience socialiste. Et ce match n'aura jamais lieu parce que c'était pas possible que les communistes prêtent leur soviétique aux socialistes.
Étienne Manchette, c'est vrai que là, on a une sorte de... À travers cet exemple-là, on se plonge dans une presse qui, du coup, raconte la France des années 26, 27, 28, à travers un match de football dans la presse de l'époque.
Bah là, c'est plus que du raconter, parce que l'Humanité, c'est eux qui publient les annonces pour recruter les équipes travaillistes, comme on les nomme à l'époque, pour jouer. Donc en fait, il y a un parti prenant qui va au-delà de la couverture sportive.
Ça, c'est dans l'humain.
C'est dans l'humain.
Dans l'humanité.
Dans l'humanité. C'est un joueur dont le nom m'échappe aujourd'hui, mais qui va devenir un grand entraîneur hongrois, qui justement, lui, passe les petites annonces pour recruter les futurs joueurs. Et donc en fait, c'est publié via... Donc on est sur un écosystème quasiment complet. Tous les travailleurs vont venir acclamer, voilà, ça trône à la une de l'IMA, et c'est important de le voir.
Et la presse conservatrice qui, du coup, s'affole et s'inquiète.
Tape à boulet rouge, mais pas que les conservatrices, oui. Les socialistes aussi disent, on voit bien dans la manœuvre de ramener cette équipe qui est phénoménale, qui a déjà gagné quasiment. L'UMA dit, de toute façon, c'est sûr qu'ils vont mettre une raclée globalement à notre équipe. Ça gêne personne.
L'inverse était impensable.
Exactement. Donc voilà, il y a toute cette mise en scène qui est unique, quoi, pour le coup. Donc on est plus que sur la couverture sportive. Là, on est vraiment sur un enjeu où la presse joue un rôle important dans la construction de l'événement sportif.
On va parler de Johnny Weissmuller après la première pause musicale de cette émission, avec un trio réuni sous une orthographe au féminin, Junior E. Le titre joué ce soir, Drôle d'histoire.
C'est toujours qu'un faux départ, sans changement d'adresse. J'ai beau vider le placard, je retourne ma veste. Quand c'est moi qui pars, c'est que le trop. Thank you.
L'œil du tigre.
Il s'appelait Charles Rigoulot et Johnny Westmuller. L'un était l'homme le plus fort du monde, l'autre une star des bassins. Ce sont les deux vedettes des JO de Paris en 1924.
Philippe Collin.
Westmuller est heureux de revoir Paris et surtout de pouvoir nager à Molitor. Vous allez d'ailleurs pouvoir juger qu'il est le plus merveilleux nageur qu'on ait jamais vu.
Sur France Inter.
Johnny Weissmuller, austro-hongrois devenu américain, né en 1904 sur le vieux continent, avant que ses parents n'émigrent aux États-Unis dès l'année suivante. Johnny Weissmuller, 5 fois champion olympique de natation, puis star de cinéma à Hollywood, Tarzan fut une vedette des gazettes dès les années 20. On croise Johnny Weissmuller dans les journaux français dès 1922 et ce jusqu'à sa mort en janvier 1984 où toute la presse rendra hommage à celui qui fut trop souvent réduit à son rôle d'homme de la jungle.
La mort de Tarzan, Johnny Weissmuller est mort hier à Acapulco, Mexique, d'un œdème pulmonaire à l'âge de 79 ans. Ancien champion olympique de natation, celui qui était devenu Tarzan, le justicier de la jungle en tournant 19 films entre 1932 et 1950. Écoutez le témoignage du réalisateur américain Terence Young, qui a bien connu Weissmuller et qui nous présente un témoignage assez sympathique de celui qui restera pour tous le héros de la jungle.
Moi, je l'ai rencontré seulement une fois. C'était un dîner donné par Maureen O'Sullivan. Et c'était un homme intelligent, amusant. Et il nous a raconté des histoires de la natation et tout. Mais moi, je le trouve un homme gentil, absolument opposé de l'image qu'il présente lui-même sur l'écran.
Gilles Ders, je rappelle que vous êtes journaliste, vous dirigez le service des sports du quotidien Libération et tous les samedis dans Libé, vous éditez Rétrosport en partenariat avec la BNF, qui est donc une chronique qui met en avant l'histoire du sport à travers les archives de la presse française, notamment du début du XXe siècle. Et il y a quelques mois, au mois de mars, vous avez consacré une chronique entière à Johnny Weissmuller. Et ce que je trouve passionnant pour commencer dans ce traitement de la rubrique que vous dirigez, c'est de s'apercevoir à quel point les journaux français traite, estime Weissmuller dès les années 20. Je dis ça parce qu'on a le sentiment que Tarzan a pris toute la place, que c'est Weissmuller était Tarzan, et puis vaguement il a été champion olympique dans les années 24-28. Or, quand on lit les journaux de l'époque, on comprend pourquoi il est devenu Tarzan. Parce que c'était une immense vedette dès les années 20, Gilles.
C'est un immense nageur qui effectivement séduit définitivement la France à l'occasion des Jeux de 1924 à Paris, où il a remporté 3 médailles d'or et 1 médaille de bronze. Mais dès avant, on en parlait, il y a eu une alerte en 1922 où il est question qu'il arrête sa carrière pour une hypertrophie au cœur. Et là, la presse est quand même abattue. Bon, finalement, il revient. À Paris, il gagne tout. Mais surtout, déjà, on s'aperçoit que sous le nageur perce l'acteur, parce qu'il fait des numéros de showman incroyables au bord de la piscine. Il rigole avec ses copains, donc il a un charisme fou. Il conserve 2 titres aux Jeux d'Amsterdam en 28, et ensuite il devient professionnel, ce qui le coupe de toute participation aux compétitions, parce qu'à l'époque on était très rigoriste et moraliste sur le professionnalisme, alors que tout le monde savait qu'il y avait des amateurs marrons. Là, dans votre archive, on parlait de Molitor, ouais. Donc c'est la piscine mythique de Paris, et en fait, il y revient dans les années 30 comme maître-nageur. Maître nageur, je pense, payé une fortune.
Oui.
et voilà, il est toujours aussi charismatique. Et ensuite, donc, il se tourne vers le cinéma, vers le rôle de Tarzan. Et c'est très drôle que la presse raconte comment lui a raconté ses débuts au cinéma. Il a vu rencontrer le réalisateur Van Dyke, qui lui dit « Tu fais un essai, tu n'auras que quelques cris rauques à pousser. » Voilà, et donc, il tourne l'essai. Johnny Weissmuller se voit à l'image et dit « Bah, si c'est ça, faire l'acteur, ça marche pour moi. » Il nage quand même aussi beaucoup dans ses films.
Oui, c'est surtout pour ça qu'il est recruté, d'ailleurs, puisque c'est un Tarzan nageur dans les films des années 30. Ce qui est intéressant aussi, d'un point de vue historique, dans ces archives de la BNF, conservées donc à la BNF, c'est faire attention aussi aux informations erronées. Je dis ça parce que, dans 1923-1924, on présente Johnny Weissmuller comme un nageur américain. Donc on pourrait se dire, tiens, je suis historien, je vais écrire une biographie de Johnny Weissmuller, la presse française dit qu'il est américain, il est américain. Or, il n'est pas américain. Il n'est américain qu'à partir de 1924. Est-ce que vous pouvez raconter pourquoi il n'est pas américain, Johnny Weissmuller?
Il n'est pas américain parce qu'il est né dans l'Empire austro-hongrois.
En 1904.
En 1904, à la fin de l'Empire austro-hongrois, il devient apatride.
Il perd sa nationalité. Donc après la Première Guerre mondiale, l'Empire est déconstruit, détruit. Donc d'ailleurs, il naît en Roumanie aujourd'hui. Ce serait la Roumanie actuelle, d'ailleurs.
Et donc, il est apatride, donc apatride, il ne peut pas participer au jeu, donc il utilise un subterfuge. Il prend l'identité de son plus jeune frère, qui lui est né sur le sol américain.
Donc américain.
Donc il devient américain, donc éligible à la participation au jeu.
Mais donc, en 1924 à Paris, il participe sous une fausse identité, et il devient américain seulement après, parce qu'en ramenant 4 médailles, on dit « bon, tu vas devenir américain maintenant ».
Mais c'est, mais ça se mérite. Oui. En fait, les fausses nouvelles... Ça fait partie inhérente de la construction de l'information depuis tout le 19e et inondé de fausses nouvelles.
C'est effectivement flagrant de voir des informations complètement contradictoires sur le même sujet d'un journal à l'autre, sur les dates, sur les temps,
sur les noms. Si on décortique pas, si on compare pas, c'est sûr qu'on est perdu.
Alors, autre chose intéressante avec Johnny Weissmuller, c'est ce qu'en disent les journaux français. Et c'est assez intéressant, je trouve, parce que dans la rubrique qu'a écrite Gilles il y a quelques mois, on s'aperçoit déjà ici une fascination pour le corps de Weissmuller, mais aussi pour la décontraction américaine de Weissmuller. On sent qu'on est en 1922-24, que la Première Guerre mondiale n'est pas loin, et à travers la plume des journalistes français, on sent la fascination pour le Nouveau Monde. On sent que tout d'un coup, Weissmuller incarne déjà une forme de pré-60, c'est-à-dire qu'il est l'Américain et on est fasciné par l'Américain. Qui veut répondre à ça ?
Il y a la détente américaine, ça c'est sûr que...
La décontraction, le côté cool
attitude. Quand il parle, il se rend compte, le journaliste dit, il a glissé sa casquette sous le bras, il s'est recoiffé, tout ça.
Avec son peigne,
Donc, il demande plus d'efforts que de nager.
Donc voilà, il y a ça. Après, sur le corps, c'est encore différent parce qu'on est dans l'âge complet des années 20-30 qui va faire une apologie clairement du corps dans tous les partis, etc. Donc là, il y a un vrai sujet.
Gilles. C'est d'autant plus étonnant cette fascination pour le people avec Weissmuller que encore dans ces années-là, la France est traumatisée par la guerre de 14 et le sport a des vertus quasi militaristes. Il faut faire du sport pour reconstituer une armée, pour reconstituer une nation qui sera capable de se défendre la prochaine fois. Et donc ce rapport entre Weissmuller et le sportif français qui doit être quasiment un soldat est assez étonnant.
Étienne, je rebondis sur ce que vous venez de dire. C'est vrai que j'ai repéré un article de presse du 16 février 1933 d'un journal qui s'appelle Le Petit Marseillais et qui décrit Weissmuller. Et Weissmuller est décrit comme une véritable statue vivante, le plus magnifique spécimen de la beauté masculine. On sent bien en effet derrière cet extrait, l'époque, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fascination pour le corps antique hein, et qui veut dire aussi ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Allemagne. Il y a un fanatisme qui est là.
Non, mais en tout cas, il y a un culte qui est lié. Alors avec Weissmuller, c'est différent et puis ça rejoint un autre sujet. On parlait de la photo tout à l'heure.
Ouais, exactement.
Weissmuller, quand il plonge, où il fait le pitre autour de la piscine, où il fait des shows, etc. En fait, le système photographique est assez proche des photos qu'on va avoir au moment de la sortie de Tarzan, où c'est toujours ce corps triomphant chez lui qui est là, mais globalement, il a toujours ce côté très prégnant, et il occupe l'image complètement, et c'est son corps qui est là. On décrit son attitude, sa personnalité, je sais pas à quel niveau les gens ils se rendent vraiment dedans, on est plutôt sur, voilà, il s'est amené, il avait l'air relax, voilà, on a bien discuté, c'est quelqu'un de surpuissant, et ça pivote sur, voilà, l'athlète, sa manière de nager. Voilà, elle est décrite à peu près par tous les canards tout le temps, cette fascination.
Mais c'est vrai que les photos qui accompagnent ces papiers, c'est la statuaire grecque. C'est-à-dire que le corps de Weissmuller est très bien bâti parce que c'est aussi un nageur, donc ça forme les muscles, notamment des pectoraux et des tablettes de chocolat. Et c'est vrai que ça fait, quand on voit les photos dans la presse de l'époque, on a une statuaire grecque. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup là-dessus dans les journaux de l'époque.
Il y a deux types de photos. Il y a son visage, pris en contre-plongée. Voilà, vraiment ce côté très, voilà, qui va triompher aussi
au cinéma,
dans Tarzan.
Bien sûr.
Et ce côté tout droit, très, très puissant, qui est omniprésent.
Alors Gilles Derz, il va donc faire 12 fois Tarzan au cinéma, Johnny Weissmuller, dont un épisode en 1942 où il va affronter les nazis, il s'appelle Tarzan à New York, c'est ça je crois, voilà. Ensuite il va incarner une sorte de personnage bizarre de Jungle Jim.
Effectivement, pour revenir au corps de Weissmuller, qui est son outil de travail, et bien sûr cet outil de travail se dégrade, donc à un moment il ne peut plus jouer Tarzan, il court encore après sa gloire et essaye de lancer un nouveau héros, Jungle Jim, effectivement. Je crois qu'il n'a pas du tout l'aura de Tarzan ni le succès. Et au fur et à mesure que son corps se délite, lui part aussi en capilotade. Il s'est marié cinq fois, il a divorcé 5 fois, il a payé des pensions alimentaires astronomiques. Tout ça pour terminer alcoolique dans un hôtel d'Acapulco pour mourir en 1984.
Oui.
Ce qui est quand même assez...
Il est passé par Las Vegas entre-temps, puisque Frank Sinatra lui a trouvé un poste de portier au Caesar Palace. Donc c'est un peu tragique comme fin de vie aussi pour Johnny Weissmuller.
Ouais.
Étienne Manchette, là on évoque un destin effectivement à la fois de sportif mondial, d'icône planétaire d'Hollywood, qui est véhiculé par toute la presse mondiale et française au long du XXe siècle. Donc on connaît Johnny Weissmuller, mais le charme, on en parlait tout à l'heure, de ce fond de la BNF, c'est aussi de raconter des histoires méconnues avec beaucoup de sportifs qu'on découvre dans la rubrique de Gilders. C'est aussi le charme de Retro News, de Retro Sport, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des destins méconnus, d'ailleurs souvent féminins, des destins souvent féminins qui sont méconnus.
Alors ça, nous, c'est parce qu'on y travaille aussi avec Gilles, c'est, pour nous, c'est cette part-là. Il y a 90% de l'histoire des classes prolétaires, des gens pas connus, des faits divers, des sous-événements. Voilà, ces événements oubliés, en fait, ça occupe la presse complètement. Donc en fait, c'est ça qui est absolument génial dans le fond d'archives de presse, c'est que vous avez les grands événements, la une, mais derrière, à toutes les autres pages, et derrière toutes les autres pages, il y a autant d'histoires, autant de gens qui sont plus proches de nous, clairement, et qui, en fait, font l'actualité. Et toute cette matière base d'archives fait qu'on a un autre type de récit historique qu'on peut bâtir, que ça soit dans le sport, dans l'histoire sociale, dans l'histoire politique. On a aussi, cette masse-là, l'histoire des ignorés.
Il y a aussi, dans ces archives de la BNF, Étienne Manchette, des choses assez surprenantes. J'ai le souvenir d'une chronique assez drôle de Gilders sur la ping-pong mania en France dans les années 30. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le ping-pong a envahi la France dans les années 30?
Alors, je ne sais pas s'il a envahi. En tout cas, c'est un sujet qui arrive peu à peu et qui va devenir, sous l'égide justement des journaux, justement, est-ce une mode? Vraiment, donc il y a tout cet itinéraire où aussi il y a un vrai travail des fédérations, clairement derrière, j'y en parlerai mieux que moi, qui vient s'imposer. Donc ce sport venu d'outre-Manche qui va se poser, donc il y a toute la question de qu'est-ce que vraiment le tennis de table? Est-ce que le
est-ce
son
un sport
ping
ou pas?
Pong, voilà,
ça, c'est le débat qui agite. Voilà.
Est-ce que c'est un sport ou pas, Gilder? Ça, c'est la grande question des années 30 dans la presse.
Oui, sur le ping-pong, effectivement. Les tenants de la thèse selon laquelle c'est un sport disent que c'est pas du ping-pong, mais du lawn tennis, du tennis de table, même si le terme ne s'imposera pas. Et tout le combat de ces défenseurs de prouver que c'est un sport. Un vrai sport qui permet de suer, qui permet de perdre du poids, qui permet aux femmes de faire du sport. Certains rigolent en disant que ça permet aussi de faire le ménage chez soi quand on va chercher la petite balle blanche sous une armoire. Et tout ça. Mais le débat était, est-ce que c'est un sport? Et finalement, ça devient un sport, mais c'est vraiment un feu de paille dans les années 30. Et ensuite,
il y a un concours qui est quand même organisé par Match.
Oui. Match était un grand magazine consacré au sport.
Voilà, et Match organise pour favoriser ce sport-là, mais aussi pour drainer complètement la fédération. C'est vraiment, il y a toujours cette double casquette. Il va organiser un concours où il dit que c'est absolument formidable. Il y a 4000 et des poussières de participants. Et mis à part la finale qui était
Match reconnaît quand même que les finales ont été soporifiques parce que les joueurs n'avaient pas l'habitude de se produire devant des milliers de spectateurs. Ouais. Mais Match a cette honnêteté de dire que c'était pas terrible.
De dire ça, mais c'est avant tout d'aller vers les classes populaires. Donc en fait, il crée un événement sportif pour glaner des gens, il les invite, il diffuse ça dans le journal et il couvre aussi en même temps. Voilà, donc là, on a un système parfait de couverture d'événements sportifs via cette ping-pong mania qui a sûrement pas été aussi dingue que ça.
Qu'on le laisse entendre. Mais on apprend deux choses malgré tout. C'est l'apparition pour la première fois en 1901 du mot ping-pong dans la presse française. Donc quand on fait une histoire, on a ici une source. C'est le journal de la Côte d'Or, je crois, qui pour la première fois en France évoque ce mot de ping-pong en 1901. Et on apprend aussi dans la chronique de Gilles Gignore. Alors on n'est pas assez la légende, la rumeur, la naissance du ping-pong. Comment est né le ping-pong, Gilbert, a priori?
Alors le ping-pong est né selon la légende. Noble anglais qui voulait reproduire à l'intérieur une partie de tennis, une stratégie de tennis, et qui donc ont pris un bouchon de champagne, mis des livres en guise de filet et des livres en guise de raquette, et c'est venu comme ça. Et d'ailleurs, le badminton serait né dans les mêmes circonstances.
Toujours des nobles anglais.
Des nobles anglais qui, en villégiature dans un château, décident de reproduire un jeu qu'ils ont connu aux Indes, prennent un bouchon de champagne, ils plantent des plumes, le volant est né. Et le badminton est né avec.
Incroyable.
À badminton, justement.
À badminton, évidemment. Pour terminer, Étienne Manchette, est-ce que ce travail-là de défrichage, de conservation, de classification de la presse, et en l'occurrence de la presse sportive ce soir, est-ce que ça a changé votre regard sur l'histoire et la culture du sport?
Alors, carrément. Alors, du coup, je rebondis, vous parliez du terme ping-pong. Sur Retro News, par exemple, vous avez une fonctionnalité qui permet d'identifier les termes. Et en fait, vous voyez ce qu'on appelle les trends aujourd'hui de la presse sur 3 siècles. Donc, chaque mot peut trouver un écho. Sur l'histoire du sport, moi qui suis pas un spécialiste ni du sport ni grand sportif, moi cette mutation narrative qui est très importante, les matchs de boxe. Pour le coup, c'est fascinant. La première écriture de comment on raconte ses coups, etc. Avant même la radio, on est dans l'événement. Et en fait, cette mutation d'écriture, c'est vraiment hyper excitant. On a fait une lecture sur France Culture de justement d'un des matchs de Carpentier dessus. Voilà, qui c'est juste à la une, c'est un tout petit encart, mais alors vous êtes dans le match et c'est absolument formidable. Donc oui, il y a ce mode narratif, cette occupation du sport partout qui va vraiment avoir comme sujet de modifier aussi, d'aller happer des classes populaires, hein, qui pour moi était une vraie révolution.
Gilles, même question, est-ce que ça a changé, vous, le spécialiste de l'histoire du sport, vous aimez ça, le spectacle et l'histoire du sport, est-ce que ça a changé votre regard sur le sport et sur l'histoire du sport, justement?
Alors, je suis pas un spécialiste de l'histoire du sport, je le deviens parce que avec cette rubrique, c'est le statut des sportifs de cette époque qui est absolument extraordinaire. Carpentier devient un homme du monde, Ladoumeg attire 400 000 personnes pour admirer sa foulée, ils incarnent complètement leur sport, parce que c'est d'abord des destins individuels, on parle surtout de sport individuel, moins de sport d'équipe à cette époque, parce que...
Tout ça poussé par la presse, ouais. Hein, c'est des portraits d'individus qui mêlent toujours un peu l'individu, l'homme d'intérieur, parce que voilà, il y a aussi Suzanne Lenglen qu'on a vu, voilà.
Ça se concentre beaucoup sur des individus parce que les fédérations françaises de sport collectif naissent à cette époque. En général, elles ont fêté leurs 100 ans l'an dernier, donc le sport collectif est moins structuré, il est l'objet de notamment qu'on parlait des fédérations sportives et gymniques du travail qui sont très politiques. Enfin, la presse de cette époque parle beaucoup moins d'équipe que d'individu et de champion.
En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir. Je rappelle que vous pouvez consulter le site Retro News, site web sous l'égide de la BNF, où vous découvrirez entre autres les archives du sport à travers la presse française depuis plus d'un siècle. Et tous les week-ends, dans le journal Libération, vous pouvez lire cette rubrique passionnante éditée par Gilles Ders qui met en scène un destin ou une histoire oubliée du sport au XXe siècle.
Sur le site.
Sur le site, évidemment, de libé.fr, grâce aux archives de la BNF. Justement, c'est sur le site de Libé tous les samedis. Merci beaucoup à vous deux. Salut.
L'œil du tigre. Philippe Collin sur France Inter.
Alone, chanson signée Norah Jones. On continue en musique avec La Victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minonzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Et ce soir, on cause basket américain. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors ce soir, LeBron James, le mélomane averti.
Dites-moi ce que vous écoutez et je vous dirai qui vous êtes.
Ah.
Voilà, ça c'est un principe auquel je crois beaucoup. Les goûts musicaux d'un individu révèlent sa personnalité. Illustration ce soir avec LeBron James.
LeBron James, la star du basket américain.
Oui, c'est une icône planétaire. LeBron James dispute actuellement la finale de la NBA avec les Los Angeles Lakers. Alors, pour les personnes qui n'entendent rien au basket, on dira simplement que grâce à ses qualités physiques et sa polyvalence, James est considéré comme un des tout meilleurs joueurs de l'histoire de son sport, voire même le meilleur devant Michael Jordan. Bon, la question suscite des débats acharnés entre spécialistes. Mais au-delà de ses qualités sur le parquet, le leader des Lakers se distingue aussi par son rapport obsessionnel à la musique. Sur son compte Instagram, il se met constamment en scène en train d'en écouter.
Alors, quel type de musique préfère-t-il ?
Eh bien, ses goûts sont étonnamment variés, comme le prouve l'interview qui va suivre, dans laquelle il énumérait en 2007 ses artistes favoris.
From classicals, Mozart, Beethoven, to U2, Aerosmith, to Beyoncé, to Jay-Z, to... She's a maniac, maniac on the... Yeah, that's it. She be dancing like she never danced before.
Alors, on résume. LeBron a cité pêle-mêle des grands noms de la musique classique, de la pop internationale et du rap américain. Et bon, avant de se lancer dans une version un peu personnelle de Maniac, qui est un des tubes de la bande originale du film Flashdance.
Mais il chantait bien quand même.
Ouais,
franchement, il se débrouille.
Bon, mais alors, son éclectisme musical ne s'arrête pas là. Il y a 2 ans, James a partagé cette chanson un matin alors qu'il venait de se réveiller.
Souvent en vain on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard sur son chemin, rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse.
Aznavour dans le portable de LeBron James, ce n'est pas vraiment le genre de morceau qu'on s'attend à trouver chez un basketteur américain.
C'est vrai. Alors il faut savoir que Aznavour avait répondu à cet hommage en enregistrant une vidéo pour James, qui était invité dans l'émission Click de Mouloud Achour, c'était en 2018.
James, c'est Charles Aznavour. J'ai appris que tu aimais bien mes chansons et moi, dans l'autre côté, le sport que tu pratiques est un des sports que je préfère. Parce que je ne suis pas très sportif à part ça. Alors... je pense que tout se passe très bien pour toi. Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours. À bientôt, James, et bon courage.
Oh, that's incredible. That's sweet, that's sweet.
Incredible. Ouais, on entend bien à la fin à quel point LeBron James est touché en découvrant ce message. Eh bien, sachez qu'Aznavour n'est pas le seul chanteur français que James adore. Cet été, il a relayé un titre de l'artiste R&B marseillais Taïk, dont la notoriété à l'international a soudainement explosé.
Oui, il suffit que LeBron James écoute une chanson pour que ça devienne un tube, en fait, c'est ça?
Exactement. LeBron James a 72 millions d'abonnés sur son compte Instagram et beaucoup de ses abonnés s'identifient à lui. Ils ont envie d'écouter ce que lui écoute. D'ailleurs, des artistes majeurs du rap nord-américain, comme Drake, envoient régulièrement à James leur album avant même leur sortie, en espérant qu'il en diffuse des extraits sur son compte en avant-première. En gros, il n'y a pas de meilleure pub. Mais au-delà de ces considérations commerciales, il faut bien comprendre que la mélomanie de James a joué un rôle décisif dans sa réussite sportive.
Pourquoi ?
Eh bien, il dit souvent que écouter du rap avant un match l'aide à se préparer psychologiquement pour ce match. En 2016, il expliquait même que ses performances de haut vol en finale de la NBA avec Cleveland lui avaient été inspirées par un titre du rappeur américain Jay-Z, A Star Is Born, qu'il écoutait alors en boucle. Alors, au final, j'avoue que j'ignore si LeBron James est un meilleur basketteur que l'était Michael Jordan. Mais une chose est certaine, il a des goûts musicaux plus sûrs que Jordan, qui n'a jamais été très pointu sur le sujet et qui n'a sans doute jamais entendu parler de Charles Aznavour.
LeBron James, le basketteur à la French Touch. Merci beaucoup, Pierre-Étienne.
Bonne soirée, à la semaine prochaine.
Oui, salut. Et voilà, cette sixième émission de notre saison 6 a été mise en ondes ce soir par H2M, bien sûr, Henri-Marc Mutel. Merci Marco. Assisté ce soir à la technique de Kevin Pelot. Merci à lui, merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter avec le compte L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr, bien sûr, pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec un patronyme que tout le monde connaît au-delà même du sport. Mais que sait-on vraiment de sa vie d'aviateur et d'écrivain? Qui était Roland Garros? Réponse dimanche prochain à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.